Et donc, on est dans cette longue série de la vie de disciple. Et puis, comme on est dimanche, on va aborder aujourd'hui la question du travail. Pas du travail le dimanche. Et avec cette question, quel sera ton état d'esprit lundi, si tu es salarié, hein, bien sûr. Les autres sont en vacances, ou s'occupent de leur famille, ou font du bénévolat, ou font plein d'autres choses, peut-être. Finalement, quelle tête tu fais en allant au travail, après t'être rasé, enfin tout le monde se rase pas, bien sûr, le lundi matin. En fait, c'est une assez bonne question, la question du travail, parce que le salarié type en France, qui fait une carrière complète, qui part en retraite, je sais pas tellement à quel âge encore, on va voir. En tout cas, s'il a cotisé 43 ans et qu'il a travaillé aux 35 heures, il a travaillé 60 000 heures, 69 000 heures. Ça va, les jeunes? Ok. 69 000 heures quand même. Hein. Donc, autant avoir la vision biblique des choses, ça peut aider, on va dire. Non? Croyez pas? Alors, que dit la Bible sur le travail? En fait, il n'y a pas un texte qui en parle. Ça en parle beaucoup, mais c'est un peu réparti dans les différentes parties de l'Écriture. Et donc, ce sera un message un peu thématique que je vais vous faire. Je ne vais pas étudier juste un passage, mais faire un panorama, en fait, des choses. Je veux aussi faire comme remarque que je ne veux pas parler que du travail salarié. Pas que ça au monde, hein. Il y a tout un tas d'occupations domestiques qui sont du travail. Il faut pas négliger, que ce soit les choses ménagères, ou s'occuper des enfants, ou de nos parents âgés, ou que sais-je. C'est du travail, ou de notre conjoint. Ça peut être du travail, oui. Les études, c'est du travail. C'est votre métier. Donc vous devez le faire comme un métier, vos études. Si vous êtes étudiant, je regarde votre âge, c'est une estimation que je fais. Le bénévolat, c'est du travail que vous proposez. Les services dans l'église, c'est aussi du travail. Donc on parle un peu de tout ça, pas uniquement le travail salarié. Sinon les retraités vont dire, bon ben, je vais m'ennuyer pendant tout le message. Bon, jouons un petit sudoku sur le téléphone et ça ira bien. Autre chose très importante, toujours, sur tous les sujets importants, il faut toujours se souvenir de la grande histoire. La grande histoire, avec la création qui est bonne au départ, très bonne même, hein. C'est vraiment le plan parfait de Dieu au départ. Ensuite, il y a le péché qui fait irruption, ce qu'on appelle la chute, hein. La chute. Et là, c'est la catastrophe. Tout est corrompu, en fin de compte. Ou en tout cas, marqué par la corruption. Et Christ vient, c'est la rédemption, il rachète les choses dans un déjà. Et en même temps, un pas encore qu'on espère. Et ça, c'est l'accomplissement final. J'ai planté une petite punaise sur la ligne du temps pour dire, on est là. Vous êtes ici. Donc, on est dans un entre-deux. La venue de Christ qui a changé plein de choses et l'accomplissement final, le renouvellement éternel et final de toutes choses. Nous, on vit là. Est-ce que c'est commode à vivre? Pas toujours, mais c'est là qu'on est pour l'instant. Donc toujours se dire, on a interrogé Jésus sur des tas de questions. Au commencement, n'avez-vous pas lu que le Créateur? Voilà, au commencement. Ça, c'est le modèle. Le modèle des choses, c'est pas d'observer l'aujourd'hui. C'est d'observer ce que Dieu a créé au commencement. Et qui va restaurer, il a commencé à le faire et complètement mener la restauration. Donc on va balayer la question du travail, non pas pour s'en désintéresser, mais dans l'histoire en quelque sorte, et voir ces quatre phases. D'abord donc le plan initial de Dieu pour le travail. De toute façon, dès que vous ouvrez l'écriture, dès le début, vous rendez compte que Dieu travaille beaucoup. Énormément. Pas seulement pendant les six jours de création, où c'est un travail très, très intense, incroyable, de déploiement de son plan, mais il travaille encore aujourd'hui, dans toute l'histoire d'Israël et de l'Église encore aujourd'hui, il travaille. En tout cas, pendant les six jours de création, dans le début de la Genèse, Dieu décrète, Dieu nomme des choses, Dieu façonne, fait les choses. Il les dispose, il les crée, j'ai pris des verbes hein, que j'ai extraits, et il constate, en tout cas que c'est bien, que c'est même très bien, il bénit aussi ce qu'il a créé. Et le septième jour, Genèse 2 et suivant, Dieu met un terme à son travail de création. Mais c'est pas vacances, hein, ne pas déranger, non, non, il continue. C'est plus un travail de créateur, mais c'est un travail de gouvernance, hein. Qui est là. Et il est présenté dans l'écriture comme un potier Ésaïe 64, potier qui produit, qui travaille, qui façonne la terre glaise. Hein. Un vigneron, bah, c'est un métier. Hein. Moi, j'habite Guebwiller, donc je suis très bien placé pour le savoir. Et il est aussi présenté, entre autres, comme un berger. Ça, c'est aussi un métier. Hein. Tout un métier d'être berger. Prendre soin, conduire, etc. Et il est aussi un roi. Et un roi, c'est pas juste être sur des photos et souhaiter des bons vœux le premier de l'an. Hein. C'est un vrai travail. Donc Dieu, il est tout ça, il est même bien plus encore. Et cette action, cette activité qu'il a, elle révèle quelque chose de sa personne, de sa gloire, de sa nature parfaite. Et même Jésus, qui vient sur cette terre, Messie, il aurait pu dire, moi je suis le Messie, je vais apprendre par cœur la Bible, peut-être qu'il l'a fait d'ailleurs aussi, je vais juste me préparer à l'instant quand j'aurai 30 ans où je vais entrer dans mes ministères, je vais faire des études théologiques très poussées, je vais me replier dans une bibliothèque, je vais apprendre par cœur plein de choses. Non, il était artisan dans le bâtiment. On dit charpentier, mais dans le mot grec, ça pourrait être beaucoup plus que juste tailler des poutres. C'est carrément un petit patron d'une entreprise du bâtiment hein, qui touche à tous les corps de métier. Et il a bossé Jésus de ses mains. Il s'est certainement tapé avec le marteau sur le doigt de temps en temps. Il s'est mis des échardes, non pas dans la chair, si quand même. Ça, c'était l'apôtre Paul, mais pour parler d'autre chose. Mais voilà, le travail, c'est le contact avec la matière. Je veux dire, on ressent de la fatigue aussi à certains moments. Et il a bossé Jésus. C'est l'homme parfait. Donc Jésus a travaillé. Et même son ministère, c'est un vrai travail. Il est fatigué, il a soif le soir. Un homme, un vrai humain. Il a incarné tout ça. Donc dans Genèse 1 et 2, on s'aperçoit que Dieu en fait institue le travail. Il y en a qui croient que le travail il est venu avec le péché. Pas du tout. Le travail il est venu avec la création bonne. Et on apprend trois vérités sur le travail de biblique, c'est que Dieu a voulu le travail pour nous bénir en fait, pas pour nous punir, pour nous bénir. Il a voulu le travail comme un mandat et comme un ministère spirituel en plus. Donc c'est dire la noblesse du fait que Dieu nous a créés avec cette vocation à travailler, et donc il a voulu le travail d'abord pour nous bénir, parce que nous portons son image, il travaille, et donc, à sa ressemblance, nous avons aussi une tâche dans le travail. Pour le refléter, on a cette vocation à le refléter en mettant en œuvre des compétences. C'est vrai que, je sais pas, mais regardez vos frères et sœurs ici, imaginez la somme de dons, de compétences, d'expériences. Mais tous azimuts, hein, pas que professionnels. Hein. Je veux dire, une maman, il y a une expérience incroyable qui s'acquiert. Donc, je suis pas en train de dire, voilà, il y a que le travail salarié, il y a que ça au monde. Non. Toute cette compétence, ces dons qui sont là, eh ben, ça reflète qu'on porte l'image de Dieu. On peut être fier de ça, j'ai pas dit orgueilleux, mais fier de cette dignité que Dieu nous a donnée de pouvoir mobiliser notre intelligence, notre créativité, nos capacités pour lui rendre gloire par notre action au quotidien. Et ça, c'est vraiment une belle chose. Et en fait, le travail, il est dans la bonne création, il est bon pour nous, hein, je le dis. On participe à un projet de Dieu par notre action et c'est aussi un moyen d'épanouissement dans la bonne création, hein. Et aussi de relation aux autres et d'utilité. Tellement important, l'utilité, hein. Tellement de gens souffrent aujourd'hui, mais ça, c'est le chapitre, enfin, c'est la partie suivante, parce qu'ils voient pas d'utilité à leur boulot, quoi. Et bien, ça sert à quoi, ce que je fais, en fait? Mais ça, ce sera après. En fait, c'est pas seulement pour nous bénir, mais c'est un véritable mandat. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat? C'est une fonction, une charge qui est confiée à quelqu'un par un groupe. Votre pasteur, Josué Ludman, il a un mandat de pasteur parmi vous. Dieu l'a appelé, bien sûr, mais vous l'avez établi, vous l'avez voté pour qu'il soit votre pasteur. Il a un mandat. Eh ben, le travail, pour chacun d'entre nous, c'est aussi un mandat. Dieu nous a confié la tâche aussi de en fait, de gérer la création avec lui. Un mandat de co-gestion de la création avec lui. D'ailleurs, quand tu lis dans le début de la Genèse, quand l'homme et la femme arrivent dans le jardin, il est comment ce jardin? Est-ce que c'est juste un désert, une friche, je sais pas quoi? Non, il y a un truc qui est déjà opérationnel. Et il y a déjà toute une création des animaux, des plantes, un cycle de la nature et tout qui est déjà opérationnel. Il y a juste à entrer là-dedans et à cultiver et garder ce jardin. Et en fait, dans le grand projet de Dieu, il s'agissait pas, et c'était pas statique. Ce jardin, il fallait le développer. Et d'ailleurs, l'état final, ça sera la dernière partie du message, ce sera une ville, Jérusalem céleste. On part d'un petit jardin, d'un jardin, et le bout de l'histoire, avec un grand H, c'est une ville. Donc il y a un développement, j'ai pas dit une ville polluée, mais une ville avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'actions, beaucoup de services. Et donc on passe d'un jardin avec deux personnes à une ville avec des millions et des myriades de rachetés, d'anges, etc., etc., etc. Donc, nous dit le livre de la Genèse, le Seigneur Dieu prit l'homme, hein, et donc l'établit dans le jardin, jardin d'Éden. Ça veut dire quoi, Éden? Délice, plaisir. Donc, quand il travaille dans le jardin, dans la belle création de Dieu, c'est un plaisir, c'est un délice, quoi. Je ne sais pas si quand vous jardinez, c'est la première idée qui vous vient à la tête, mais parce que la terre est un peu basse des fois pour nous. Mais en fait, c'est ça l'idée, qu'il y a un cadre vraiment formidable, quoi, de plaisir. Hein. Et ensuite aussi, Dieu a demandé à ce que Adam donne des noms aux animaux. Il n'a pas dit, moi je les appelle comme ça, apprends par cœur. Il dit, comment tu veux les appeler? Parce que nommer, c'est comprendre. La science nomme les lois physiques, nomme les éléments, etc. Et Dieu, en fait, il a donné des objectifs à notre mandat, à notre œuvre. Hein, c'est de produire des biens, des services, de la nourriture, hein, agriculture, les activités de construction, les services concrets, les services intellectuels, c'est de la production de services, ça. Hein, et également aussi d'organiser. Très important d'organiser, hein, le monde créé, quelque chose qui n'est pas anarchique. Hein, organiser, administrer, gérer, contrôler. Et en fait, un contrôle bien mené, une organisation bien faite, eh ben ça glorifie Dieu. Une église où c'est le bins, où on ne sait jamais qui fait quoi, ni comment, où tout le monde fait tout et rien, c'est pas si ça glorifie tellement Dieu. Alors c'est pas non plus un truc militaire. Mais il y a quelque chose, manière de vivre l'ordre dans l'église, qui vraiment glorifie Dieu et donne de l'efficacité à la chose. Et puis, on a tendance à l'oublier aussi, ce mandat que Dieu nous donne, c'est un mandat aussi d'apporter de la beauté et de la joie. Je sais pas, il y a des intérieurs, tu es parfois invité chez des frères et sœurs. Mince, on se sent bien, quoi, c'est beau, c'est juste beau, il y a des fleurs, il y a des beaux objets, c'est beau. C'est aussi toute la dimension artistique. Dieu est un artiste. Hein. Il aurait pu dire, moi, dans ma création, je vais mettre 5 couleurs, basta. Mais il y a une infinité de couleurs. Il n'a pas dit, je vais créer 3 sortes de papillons, ils se débrouilleront avec. Il y en a un nombre incalculable, tellement différent. Cette variété de Dieu, cette poésie de Dieu, et d'ailleurs tout ce qui se passe, je le redis, dans cette belle création de Dieu, dans ce jardin d'Éden, c'est joyeux, c'est beau, c'est varié. Et donc, la vocation, c'est de gérer avec Dieu tout ça dans ce contexte-là de beauté, d'ordre et de production de choses utiles et bonnes. Mieux que ça, le travail humain, en fait, c'est un ministère spirituel, un service rendu à Dieu. Je sais pas ce que t'as comme activité au quotidien, mais considère que si t'as écouté Dieu et que tu es à la bonne place, tu es en train de rendre un service à Dieu là. Et même comme retraité dans ce que tu fais, tu rends un service spirituel. On a du mal, nous les Occidentaux, avec ça. On fonctionne en tiroir. En fait, on est dualiste. C'est une vieille tentation, une vieille erreur en fait spirituelle qui remonte très loin. Et la philosophie grecque est très là-dessus. La matière, bah, l'esprit, la pensée,
jeu spirituel. Ouais. Comme s'il y avait deux mondes, et on a inventé des trucs comme un travail séculier. Des laïcs qui font un travail séculier. Et puis de l'autre côté, ben, il y a ceux qui ont un ministère spirituel. Mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment pas la vision biblique, ça. Oublions complètement ce système. Il n'y a pas de séparation, de hiérarchie entre le monde matériel et le monde spirituel. Jésus est venu s'incarner. Il n'est pas venu comme un ange. Il n'a pas fait non plus tomber une Bible du ciel, comme ça, en disant « lisez-la et appliquez-la ». Il est venu comme un homme. Et même la résurrection, on l'a rappelé à Pâques, qui nous attend, et la sienne d'abord, c'est une résurrection du corps. Quand on sera au ciel, alors me demandez pas de vous expliquer, j'y ai pas encore été. J'irai en même temps que vous. Eh bien, on aura une résurrection du corps. On pourra toucher, on aura une matérialité, on sera pas juste des espèces d'esprits qui flottent comme ça, comme si la matière était mauvaise. Ça, c'est vraiment une pensée qui fait que du mauvais travail. Donc, faut vraiment chasser ça de notre tête. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'idée de Dieu entre les choses normales, humaines, corporelles, tout ça, et les choses spirituelles. Longtemps aussi, l'Église a dit « Ah, la sexualité, péché !» Oui, péché si on pêche, mais c'est quand même l'inventeur, c'est Dieu. Alors si c'est vécu dans son plan, dans l'harmonie divine, c'est pas un truc, c'est noble, c'est beau, parce que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Il nous a fait avec un corps qui ressent, un corps qui a des sensations, qui a des intuitions, qui a des raisonnements, qui a une matérialité. Moi, je suis qu'à un seul endroit à cet instant précis. Vous aussi, c'est bien. Alors bien sûr, maintenant, l'homme, il aspire à être partout au monde, alors on est connecté, on a 4000 amis dans notre réseau social, bon on les connaît pas, mais c'est pas grave. On a des followers, mais on sait pas qui c'est. Bon, moi je suis follower de Jésus, je pense vous aussi. En tout cas, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, Corinthiens 10, 31, il dit « Que vous mangiez, que vous buviez... » Attends, on va pas parler de manger quand même, non ? Dans la Bible, manger, boire. Non, que vous mangiez ou que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Manger, boire. Alors c'est un contexte bien particulier, mais des choses très simples comme manger et boire, matériel. Et faites-le à la gloire de Dieu. Pas de dualisme, hein ? Pas de dualisme. Tout contribue. Exode 19, 16, « Vous serez pour moi, » c'est Dieu qui dit à Israël, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Voilà ce que tu diras aux Israélites. Un royaume de prêtres et une nation sainte. Mais là-dedans, dans Israël, qui sont les serviteurs à plein temps ? Une tribu, que les garçons. Tous les autres, ils bossent. Ils ont un métier. Et pourtant, tous ensemble, avec leur métier, ils sont un royaume de prêtres et une nation sainte. Il n'y a pas d'un côté les ministères, et de l'autre, bon, bah, les gens, ils gagnent leur croûte, hein, faut vivre de quelque chose, hein. Non, ça n'existe pas, ça. Ça rétrécit le projet de Dieu, qui n'est pas du tout, comme on le pense seulement parfois, de sauver juste les choses spirituelles. Jésus est venu pour sauver les choses spirituelles, le reste on met à la poubelle. Non ! Il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Ça sera une terre matérielle. Alors, mais je peux pas vous décrire mieux que ça, j'attends aussi comme vous. Donc en fait, dehors cette pensée du dualisme, fausse. Toi, moi, en tant qu'enfant de Dieu et disciple, on est des ambassadeurs de Jésus-Christ là où on est. Dans mon quartier, dans mon travail, dans ma famille, les gens que je côtoie, là où je suis tout simplement, au quotidien, mes enfants, avec mes parents. Je suis un ambassadeur, je suis sel et lumière, on est sel et lumière, et là-dedans, 99% des gens ne sont pas des pasteurs. C'est pas grave. Non. Tu n'es pas pasteur, bah t'as un ministère. Considère-toi, tu te regardes dans la glace, J'ai un ministère. Seigneur, montre-moi le contour. Tu m'envoies. Et c'est spirituel. C'est pas, oh, une semaine avec des trucs du monde. Bon, allez, on oublie. Puis, le dimanche. Non. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ambassadeur. Ambassadeur. La différence, c'est que le 1% qui est pasteur, peut-être leur ministère, il est spécialement dans la communauté, alors que les autres, ils ont une vie en dehors de la communauté. Mais sinon, chacun a sa part, c'est tout. Ça vaut pas plus ou ça vaut pas moins. En fait, l'essentiel, c'est d'écouter le Seigneur, de me laisser guider pour savoir quel est le ministère, la vocation qui m'adresse. Et juste être la bonne personne à la bonne place. Mais il n'y a pas un truc plus sacré qu'un autre qui serait moins sacré. Faut juste être là où le Seigneur nous veut. Répondre à notre vocation. Donc voilà, la création bonne, c'est le travail qui est parfait. Et on était appelé à co-gérer la création bonne avec lui. Maintenant, il va y avoir problème, deuxième phase. Le travail donc est dénaturé. Le péché fait son entrée et tout est impacté, tout. Le travail devient pénible. Genèse 3:17. Parle à Adam. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Va falloir les enlever. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup. Jusqu'à ta mort. Et en plus, nous, on vit en 2023, si je ne me trompe pas, et on bénéficie d'une énergie dont on se plaint toujours de son prix, mais qui n'est pas cher du tout. On a des machines partout qui ont une puissance incroyable. Avant, il fallait tout faire de façon musculaire. Aujourd'hui, on a des machines. Donc, même la fatigue physique, elle est plus tout à fait ce qu'elle était il y a 200 ans, dans le monde décarboné. Certains rêvent d'un monde décarboné. Eh bien, bonne nouvelle, on sait ce que c'est. C'est le 18e siècle. La bougie, le cheval, le compost, le jardin, 90% d'agriculteurs, avec juste des outils tout simples. C'est ça, le monde décarboné. Voilà. Juste pour ferme la parenthèse, c'est autre chose. Alors, petit sondage auprès des jeunes travailleurs, et on nous dit, alors j'arrive pas à lire, alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec chacune des affirmations suivantes ? Je m'implique dans mon travail juste qu'il faut, alors une grosse majorité, alors qu'est-ce que ça veut dire juste qu'il faut ? Il y en a pour qui juste qu'il faut, c'est l'archi-minimum, bon, on sait pas. En tout cas, on a une grande partie des gens qui disent, je fais juste ce qu'il faut, pas plus, peut-être moins. Personnellement, je ne travaille que pour l'argent. Alors, c'est presque 52-48. Mais enfin, il y a quand même une petite majorité, c'est juste l'argent, quoi. Donc, imagine bien que, à 16h30, 17h, bye bye. Et je me sens généralement détaché de mon travail. Wow, quand même moitié, hein, des jeunes, hein. Ça va être long, leur carrière. Si déjà jeunes, il y a déjà la moitié qui sont déjà détachés, qu'est-ce que ça va être dans 20 ans pour eux, hein? Bon. Pareil, je lance en l'air des petits ballons d'essai. Et en fait, le péché a donné 4 ruptures. 4 ruptures. La rupture de notre relation avec Dieu, ça c'est la première, et puis les autres en découlent. La rupture d'une relation avec soi-même, notre identité perturbée, qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Qu'est-ce que je fais là ? D'où je vais ? À quoi ça sert ? Ensuite, la rupture avec les autres. Ouais, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Ouais, mais c'est lui, non, c'est le serpent. Bon, bref, il y a plus jamais personne qui est responsable. Et puis on se rejette la faute. C'est le conflit et la rupture avec la création aussi. Et donc tout ça, on n'a pas le temps de le développer, mais juste dire quelques mots sur la rupture de la relation avec Dieu. Ben en fait, c'est juste quoi, le travail qui devient juste alimentaire. Hein, bâclé peut-être, ou alors carrément le Dieu par lequel j'existe. Moi, je connais un gars. Il a 40 ans. Il y a 3 ans, il a démarré une entreprise de taxi. Ce gars-là, il travaille de 5h30 jusqu'à 21h30, tous les jours. y compris le dimanche. Comme il est stressé, il prend des cachets tous les jours. Je veux dire, il voit pas sa gamine. Sa femme, je pensais des post-it sur le frigo. C'est le travail idole. Ouais, je fais 800 euros de chiffre par jour. Et toi? Ben non, je fais pas 800 euros de chiffre par jour, mais j'ai d'autres priorités dans la vie, peut-être quand même. Donc voilà. Soit le travail, on s'en fiche, on fait comme, voilà, on dit, oh, laisse tomber, ou alors c'est juste le Dieu, c'est même mon identité, c'est mon travail, je suis ce que je fais, hein. Rupture avec soi-même, voilà, c'est la même chose aussi. Vous savez que 37% des salariés aujourd'hui en France sont dans une situation de quiet quitting. Ça veut dire démission silencieuse. Donc ils sont au boulot. Peut-être pas avant l'heure, mais au plus tard, 5 minutes après. Ils ont l'œil sur la montre, le smartphone jamais loin, et ils font le minimum syndical. Démission silencieuse. Et alors, ne leur demande pas de faire un truc en dehors des heures. Dire, moi, non, pour terminer, moi, je pose, m'accroche ma veste, j'existe plus. Eh ben, vous avez quand même 37% des salariés qui disent, moi, je suis dans cette situation-là. Moi, ça inquiète, quand même, hein. Ça m'inquiète. Bref. Rupture avec les autres, ben, c'est toutes les prises de tête, les harcèlements, la pression sur les équipes, les jalousies, les petites trahisons entre amis et collègues, c'est les prises de tête, etc., etc., etc. Pas besoin de vous expliquer. Prise de tête. On n'a pas besoin de faire un message là-dessus. Rupture avec la création, ben, c'est aussi travail pénible, stérile, usure physique, accident du travail, se sentir perdant. Je dis, mais pourquoi j'y vais? Je suis en train de donner de mon énergie, j'ai rien en retour. Burnout, voilà, la souffrance en fait au travail. Et tellement de gens souffrent au travail. Et depuis le Covid, alors c'est carrément l'apothéose de souffrance au travail. Il y a un sondage Opinion Way 2022 sur les Français. 44% des Français et Françaises présentent des signes de détresse psychologique et d'épuisement liés au travail. C'est monstre, hein? 44% sont en souffrance, avec des symptômes à minima déjà de dépression. Les psys, ils ont un agenda de ministre aujourd'hui. Non mais je ça me fait pas rire. Il y a une souffrance incroyable. Il faut vraiment que dans l'Église on puisse en parler, on puisse prier les uns pour les autres. Il faut en parler, il faut se faire aider quelque part, parce que ça va être long, hein. Ça va être long. Vous savez, qui est-ce qui souffre le plus au travail? Trois catégories qui souffrent le plus. Les femmes. Les jeunes. Je sais pas pourquoi, j'ai pas lu les explications. Et troisièmement, les managers. Alors, on les accuse souvent de faire souffrir, mais eux, ils en bavent aussi. Hein, parce qu'ils ont la pression par le haut. Bref, ça souffre. Hein. Alors, je suis sûr que tu vas dire, oui, mais il y a quand même une catégorie de gens qui sont cool. Les pasteurs. Attends, ils travaillent que avec des gens qui sont enfants de Dieu, qui ont la victoire sur le péché, qui sont dans le royaume de Dieu. Enfin, c'est des nababs. Alors, il y a, peut-être certains la connaissent, au moins de nom, Lucie Bardio-Huys, qui a sorti une thèse de doctorat en 2012 sur les abandons de ministère des pasteurs et leurs problèmes, etc. Et elle montre que, à l'époque, à mon avis, ça s'est pas arrangé depuis, plus de la moitié des pasteurs en exercice avaient envisagé, à un moment donné, ou envisagé, à l'instant du sondage, d'abandonner le ministère pastoral. On va pas parler de ceux qui l'ont déjà fait, qui ont déjà abandonné. Mais en 2012, la moitié avait été travaillée par cette question, ou l'était à cet instant même. Ça interroge. Ça interroge. Aux USA, 75%, alors je vais pas vérifier, mais j'ai trouvé cette stat, des pasteurs qui vivent à des niveaux de stress qui les prédisposent à faire un burn-out à court ou moyen terme. Donc vous voyez, finalement, ça souffre un peu de partout. Donc faites-vous aider si vous êtes en souffrance. Parlez-en. Trouvez un groupe de parole, trouvez un professionnel. Je veux dire, on a besoin d'aide parfois. On a besoin d'aide. Il y a un an et demi, j'ai dû m'arrêter pour la première fois de ma vie. J'ai fait 5 mois d'arrêt de travail pour un burn-out. Je pensais jamais que ça m'arriverait. Mais j'ai été bien accompagné. Et je vais mieux, par la grâce de Dieu, même si je garde une fragilité. Essayons de pas atteindre des niveaux critiques de souffrance avant de tirer la sonnette d'alarme. Donc, oui, le travail, il est dénaturé, il est abîmé, mais il faut continuer à co-gérer la création, mais c'est une création déchue elle aussi qu'il faut co-gérer avec Dieu. Donc nous, on a un problème, et il y a un problème dans la création, donc c'est un peu compliqué. Heureusement que, voilà, Jésus-Christ vient apporter des réponses concrètes. On y vient d'ailleurs, le travail restauré, c'est la venue de Jésus, bonne nouvelle, Jésus vient racheter le travail aussi, pas le mettre à la poubelle, mais le restaurer, en quelque sorte, dans sa dimension du commencement. Et on croit parfois que Jésus, il est juste venu pour sauver lui, et elle, et moi, et lui. Voilà, petit truc individuel. Jésus, il sauve des gens, puis voilà, basta. Pas faux, mais il manque... Waouh, faut mettre du champ, hein. Il est venu pour racheter toute sa création. Pas juste des personnes, pécheurs, et qui étaient, voilà, qui étaient perdus. Il est venu restaurer toute la création, toutes les dimensions créationnelles qui étaient bonnes au début, hein. Élargissons le champ. D'ailleurs, Paul, relisez Romains 8 chez vous, hein. Le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Le monde créé dit pas, bon, ben, pour l'instant, ça se passe mal, mais voilà. Il y aura des individus sauvés. Non, il faut que tout le monde attend une rédemption, hein, le cosmos. Et donc, on parlait de la création, Romains 8, hein, verset 21. Elle aussi sera libérée des forces qui la détruisent et qui la rendent esclave, et elle participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. C'est pas juste des individus, c'est le peuple de Dieu, mais tout l'univers du reste va aussi être au bénéfice de la rédemption. Mais clairement, depuis que Christ est venu, on vit quand même entre deux mondes, et c'est pas commode. J'ai pas dit que notre foi est entre deux chaises, hein. Je dis on vit dans un entre deux mondes, où on a déjà les premiers effets de la rédemption, puissants, mais pas encore le solde, pas encore la totalité de l'accomplissement. On est là entre les deux. Et évidemment, ça fait des tensions, des situations parfois compliquées. Et ce qui nous est demandé comme enfants de Dieu, c'est en fait d'accepter la réalité du travail, du péché. C'est pas dire, oh ben c'est comme ça, y a un climat où on massacre les salariés, etc. Non, accepter, ça veut dire accepter que ce soit possible. Et s'engager là-dedans, autant que possible. Tendre par la foi à la perspective de Dieu. À la perspective de Dieu. Donc, accepter que ça se passe pas comme l'idéal. Donc, parce que rien n'est en lutte contre ça, ce n'est pas idéal. Ça ne sera jamais. Avant le retour du Christ. Et là-dedans, dans ce truc pas idéal, compliqué, essayer d'être scellé lumière. Et ne pas perdre la perspective de Dieu qui vient. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Donc on vit là dans cette entre-deux, et on a, je l'ai encadré en rouge, une dimension très importante, pas seulement co-gérer la création avec Dieu, qui est toujours abîmée, mais œuvrer avec Dieu à la réparation de ce qui est possible et à la réconciliation là où c'est possible. Ça, c'est super important. Hein. L'apôtre Paul se voyait comme quelqu'un qui suppliait les gens d'être réconciliés avec Dieu et qui travaillait à la réconciliation des chrétiens et des autres. Donc, on a une dimension, depuis que Christ est venu, très importante, d'être utile entre les mains de Dieu pour réparer les brèches, réparer les dégâts du péché, autant que faire se peut, et travailler à la réconciliation de toutes ces ruptures entre les gens, entre les choses. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà. Réparer ces quatre ruptures. Maintenant, dernière partie, pour ceux qui s'impatientent. Ça, c'est devant nous. On l'attend. Le travail glorifié. Ça vient. Encore un peu de patience. Ça vient. travaillons-y déjà, hein, à faire venir ça. Un jour, dans peu de temps, la création entière sera délivrée, on l'a lu, et le travail sera glorifié. Il n'y aura plus toute cette souffrance qu'on peut vivre. On saura même plus ce que c'est que le stress, les ruptures, les souffrances, les prises de tête, les harcèlements, les pressions. Ça n'existera plus. La croix a racheté le travail et ça produira tous ses effets définitivement. Et n'imaginons pas qu'au ciel, comme certains ont cru que le devoir le représentait, on sera dans une espèce d'inactivité éternelle, sur un nuage, tout seul, avec une lyre dans la main. Oula. Ça promet d'être ennuyeux si c'est ça, mais ce sera pas ça. Imaginez. Ce sera long, hein, si c'est ça. Mais ce sera pas ça. Il n'y a pas d'inactivité. Il y a une grande ville qui vient. Et une ville, il y a tout un tas de services, de choses. Je sais pas comment ça va se passer. J'en sais rien. Mais je me réjouis. Je me réjouis. Et moi qui aime la musique, je sais que je serai pas obligé de jouer de la basse éternellement. Je crois pas, en tout cas. Voilà. Donc il y aura une dimension de travail glorifié qui sera peut-être même un prolongement de la façon dont on aura été fidèle ici. Parabole des talents, Matthieu 25. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Je construis pas une grosse doctrine sur ces quelques paroles, mais il y a un rapport entre ce qu'on fait ici et ce qu'il y aura comme responsabilité de l'autre côté. Parabole des intendants infidèles, Luc 16. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec les richesses injustes, bah oui, le cash, hein. Qui vous confiera le bien véritable? Ça, c'est les choses du royaume, ça. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartient à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien, notre héritage, hein, spirituel? Bon, je construis pas de grandes théories là-dessus, mais du travail glorifié, ça continuera. Voilà pourquoi il nous est dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ben oui, on est entre deux trucs, là. Il faut pas qu'on lâche, hein. Inébranlable. Alors, c'est Christ qui va être notre source. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et il n'y a pas que l'Église. En fait, quand t'es une bonne maman, quand t'es un bon, un bon voisin, un bon camarade, etc., tu travailles aussi à l'œuvre du Seigneur. C'est ça qu'il faut voir. Donc, il faut le faire. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quelque chose va nous suivre de tout cela. Et j'affiche le panneau complet. On le voit, création. Le travail est parfait, il s'agit de co-gérer la création avec Dieu. La chute tombe. Le travail est dénaturé, la création est déchue. Et nous aussi. Et il faut continuer à co-gérer avec Dieu, donc il va y avoir beaucoup de ratés. Christ vient, il établit une nouvelle humanité, un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées, mais c'est le déjà et le pas encore. Et dans ce déjà, on continue à co-gérer la création avec Dieu, mais nous on a l'esprit. Donc on peut vraiment être conduit, mais il y a une grosse dimension supplémentaire de réparation des ruptures et de réconciliation, déjà et pas encore. Et on attend, vous êtes ici, on attend cet état éternel du travail restauré. Et là, on se posera pas la question le lundi matin avec la soupe à la grimace. Ça sera fini. Ça sera fini. Je termine, parce que j'ai déjà peut-être même abusé, j'espère pas, ou en tout cas que vous me pardonnerez. Est-ce que vous connaissez cette histoire des trois tailleurs de pierre? Il était une fois un homme qui croisa trois tailleurs de pierre. Vous les connaissez, hein? Le premier tailleur de pierre travaille un peu machinalement sa pierre. Notre homme lui demande « Hola, ami, qu'es-tu en train de faire ?» Qu'est-ce qu'il répond? « Ben, ça se voit, non? Je suis en train de tailler une pierre et moi j'ai une femme à nourrir, hein? » Il taille une pierre, c'est pas faux, hein? Il y a un problème quand même. C'est qu'il voit qu'une tâche répétitive. Bon, il voit que ça. Deuxième. Attends, non, je ne vais pas afficher la solution tout de suite. Un second tailleur à côté de lui effectue le même travail avec une autre manière de faire, un peu plus méthodique. « Hola, ami, qu'es-tu en train de faire ?» Et l'ouvrier lui répond de manière réfléchie. « Là, je taille une pierre pour un mur. » C'est déjà un progrès. Il voit déjà un sous-ensemble, au moins, à minima. Et le troisième, on se doute bien qu'il va avoir la bonne réponse.
Hola ami, qu'es-tu en train de faire? Je vois que tu travailles en sifflotant. Qu'est-ce qu'il répond? Là, vous connaissez cette réponse. Moi, monsieur, je suis en train de construire une cathédrale. C'est vrai, les trois ont raison, mais ils ont leur regard à différents endroits. Juste la tâche, c'est un peu dommage. Un sous-ensemble, c'est mieux. Une œuvre qui les dépasse et les transcende. Et en fait, nous, on est appelés à voir notre œuvre, que ce soit dans l'Église ou là où il nous place, comme la construction d'une grande œuvre que Dieu veut pour notre vie. Et pas juste, mince, je fais un boulot de... Non. Voilà, construit une cathédrale. Voilà, c'est tout, c'était déjà beaucoup. Que le Seigneur nous aide à voir les choses comme il les voit. Qu'il nous convainque de chercher de l'aide si on est en souffrance au boulot, dans le harcèlement, dans la pression. Qu'on ne cesse pas de détruire, qu'on trouve des solutions, qu'on les cherche et qu'on les trouve. Et qu'on ait cette vue grandiose et aussi historique. Là, on est entre deux. Mais bientôt, il n'y aura pas photo. On sera dans le monde glorifié, restauré, à jamais. Où il n'y aura plus de deuil, de cris, de larmes, de péchés, de harcèlement, de managers qui... Bon, bref.